VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
17h à Dakar, 18h à Libreville, bienvenue à notre journal. Conflit en Syrie, l'aviation turque a abattu un avion de chasse russe à la frontière avec ce pays. Ankara accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien, tandis que Moscou affirme que l'appareil était en territoire syrien. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Les responsables militaires turcs affirment que leurs F-16 ont abattu l'avion de chasse après qu'il eut ignoré 10 avertissements en l'espace de 5 minutes. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a fait savoir que son pays avait le droit d'agir contre toute violation de son espace aérien. Réagissant à cet incident, le président russe Vladimir Poutine a dit que l'appareil était en territoire syrien, à 1 kilomètre de la frontière turque, quand il a été frappé et qu'il n'a jamais menacé la Turquie. M. Poutine a accusé la Turquie de poignarder la Russie dans le dos, selon ses termes, et de soutenir le terrorisme, y compris le groupe État islamique, a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec le roi de Jordanie, Abdullah II, à Sochi. Selon Vladimir Poutine, la Russie a noté depuis longtemps une grande quantité de pétrole et produits pétroliers qui entrent en Turquie à partir du territoire occupé par le groupe État islamique en Syrie, procurant ainsi un important soutien financier aux terroristes. L'incident aura des graves conséquences pour les relations turco-russes, a-t-il averti.
Moscou a annulé la visite en Turquie du ministre russe des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, qui devait avoir des consultations avec son homologue turc demain à Ankara. Le gouvernement russe demande aussi à ses ressortissants de ne pas se rendre en Turquie à cause, dit-il, de la menace du terrorisme dans le pays. L'avion russe a été abattu alors que le président américain Barack Obama reçoit à la Maison-Blanche son homologue français François Hollande, qui est arrivé ce matin à Washington. Les précisions de John Lindon.
Les deux leaders discutent du renforcement de la coopération au sein de la coalition dirigée par les États-Unis, qui mène depuis plus d'un an des raids aériens contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Avant de quitter Paris pour Washington, le président Hollande s'est entretenu lundi à l'Élysée avec le premier ministre britannique David Cameron. Ce dernier s'est engagé à étoffer la coopération avec les alliés du Royaume-Uni contre les terroristes. Nous faisons face à une menace commune et nous devons partager les informations et les renseignements afin de mieux nous protéger contre ces terroristes brutaux. Le Royaume-Uni et la France le font déjà, mais aujourd'hui nous avons convenu d'intensifier encore nos efforts et de travailler plus étroitement avec les voisins européens. David Cameron a indiqué qu'il demandera au Parlement britannique d'approuver l'expansion du rôle du Royaume-Uni en Syrie pour y inclure des raids aériens. Le président Hollande a fait savoir de son côté que l'armée française intensifiera ses raids aériens en Syrie.
Afrique maintenant, au Burundi, réaction très vive du gouvernement aux sanctions prises par le président américain Barack Obama contre 4 personnalités burundaises accusées par Washington de bloquer les efforts de paix dans le pays, notamment Alain Bunyoni, ministre de la Sécurité publique, et Godefroy Bizimana, ancien chef du renseignement. Écoutons la réaction de Willy Nyamitwe, conseiller principal du président burundais Pierre Nkurunziza, au micro d'Eddie Isango.
Ces sanctions ne nous dérangent en aucun cas. Ce qui nous dérange le plus, c'est la campagne de médisance et de calomnie qui est orchestrée par certaines personnes, dont certaines se trouvent d'ailleurs dans le cabinet Obama, l'ambassadrice Samantha Power, qui continue à propager des rumeurs contre le Burundi. C'est cette campagne de médisance seule qui dérange, sinon ces sanctions ne nous affectent pas.
Vous parlez des campagnes de médisance alors que les jours même où ces sanctions ont été prises, le gouvernement a interdit aux ONG leurs activités.
Non, mais je pense que étant loin de la réalité burundaise, vous voulez nous dicter comment organiser notre société. Nous avons notre façon de nous diriger et il y a des personnes qui veulent perturber l'ordre et la sérénité du peuple burundais, et quand la justice les poursuit, il y a certaines voix qui s'élèvent pour crier halte. Mais quand ça se passe ailleurs, vous avez vu le terrorisme en France, vous avez vu ce qui se passe en Belgique. Quand la justice et la police prennent des mesures pour sécuriser la population, personne ne lève son petit doigt. Alors même au Burundi, il y a des personnes qui ont voulu perturber l'ordre, qui ont fait un coup d'État et qui ont échoué, et d'autres qui ont attaqué notre pays. Alors toutes ces personnes-là, ainsi que leur soutien et leur lobby, le gouvernement du Burundi et la justice peuvent prendre des mesures à leur endroit et à leur égard afin de sécuriser et de protéger la société burundaise. Cela est tout à fait normal au Burundi, aux États-Unis et partout ailleurs.
Willy Nyamitwe, conseiller principal en communication du président burundais Pierre Nkurunziza.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Afrique de l'Ouest, Burkina Faso, le 29 novembre, les Burkinabés se rendront aux urnes pour choisir leur député et le successeur de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014. Sur place, des observateurs s'activent déjà pour le bon déroulement de ces scrutins. C'est le cas des observateurs de l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura, le chef de délégation des observateurs de l'UEMOA, Christophe Tchao, explique que sa mission est prête pour les élections du 29.
Oui, nous sommes prêts. Comme je vous l'ai dit, depuis le 20 novembre, nous sommes arrivés et nous sommes aujourd'hui bien organisés. On a mis tout en place pour un bon suivi de ces élections-là. Nous sommes entièrement prêts et nous pensons que le travail que nous sommes en train de faire va porter ses fruits. Nous sommes 14. Nous sommes 14 venant de 7 pays de l'UEMOA. Et pour cette observation, pour cette élection-là.
Christophe Tchao, chef de la délégation des observateurs de l'UEMOA aux élections burkinabé. À l'approche de ces élections du 29 novembre, la sécurité a été renforcée dans la capitale. On écoute notre envoyé spécial à Ouagadougou, Bagassi Koura, au micro de Jean-Roger Bion.
Oui, c'est un communiqué du ministre délégué à la sécurité, Alain Jean-Claude Zagré. Un communiqué qui rappelle aux populations que le couvre-feu est toujours maintenu, le couvre-feu qui a été instauré depuis le coup d'État du 16 septembre dernier, qui va de 1h du matin à 4h du matin. Donc le ministre de la Sécurité qui rappelle donc cette mesure qui date depuis septembre. Mais aussi le ministre de la Sécurité rappelle que les contrôles d'identité seront désormais organisés de jour comme de nuit. C'est ce que souligne le communiqué par les forces de sécurité. Donc en ce moment, dans les rues de Ouagadougou, à chaque carrefour, il y a des forces de sécurité qui contrôlent non seulement les pièces d'identité des passants, mais aussi les véhicules qui sont passés au crible, les forces de sécurité qui fouillent les véhicules donc, pour s'assurer que ces élections se déroulent dans la quiétude totale.
Bagassi Koura, notre envoyé spécial au Burkina Faso. Et puis appel à l'aide du Libéria aux États-Unis pour faire la lumière sur de nouveaux cas d'Ebola confirmés la semaine dernière dans le pays. La mission des deux experts des centres américains de contrôle et de prévention de maladies qui s'apprêtent à se rendre au Libéria, faire la lumière sur ces trois nouveaux cas détectés plus de deux mois après que le pays ait été déclaré exempt d'Ebola. En Algérie, incendie dans un foyer de migrants à Ouargla, dans le sud du pays. Bilan 18 morts et 43 blessés. Plus de détails avec Brahim Takeroub, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger, au micro de Chérubin Dorsil.
Ça s'est passé plus exactement dans la wilaya de Ouargla, à près de 800 km de la capitale Alger. C'est au sud du pays. La wilaya de Ouargla est connue pour être la wilaya pétrolière. C'est le poumon pétrolier de l'Algérie. Donc ça s'est passé aujourd'hui, mardi, 3h du matin. Ça s'est passé dans cette wilaya, effectivement. C'est dramatique. Donc, vous savez, des accidents de ce genre, ils sont regrettables et condamnables, mais c'est rare, et heureusement que c'est rare. Sinon, si ce n'était pas rare, ma foi, ce serait terrible pour l'humanité.
L'Algérie est devenue une destination de choix, dirait-on, pour les migrants subsahariens depuis quelques années.
Tout à fait. Vous savez que l'Algérie, actuellement, est entourée par une ceinture de feu. Toutes les frontières de l'Algérie sont des zones de tension. Il se trouve que l'Algérie est une zone où il y a la stabilité économique, politique et sociale. Il est tout à fait évident que les migrants fuyant la guerre, fuyant la famine, fuyant l'insécurité, se dirigent, convergent vers cet îlot de stabilité, de calme.
Brahim Takodroub, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger, au micro de Chérubin Dorsil. Et puis en Égypte, 4 personnes, dont 2 policiers et 1 juge, ont été tués par une attaque suicide dans un hôtel du Sinaï, région où opère une branche du groupe État islamique. Et puis l'homme soupçonné d'avoir fourni un logement de repli aux djihadistes belgo-marocains Abdelhamid Abaoud après les attentats de Paris, présenté à un juge aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué une source judiciaire en France. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.